Lettre 78e, suite de la lettre d'Evelina, 9 octobre. L'extrême agitation dans laquelle j'ai passé la journée d'hier ne m'a point permis de vous écrire, monsieur, aussitôt que je l'aurais voulu. Mais aujourd'hui que mes esprits sont un peu calmés, je n'ai rien de plus pressé que de rendre compte au meilleur de mes amis des événements de ce jour à jamais mémorable. Madame Selwyn résolut de ne pas se faire annoncer. Sir John, me dit-elle, frappé de l'idée des reproches auxquels il s'attend de ma part, pourrait décliner une seconde conférence. Ainsi, nous n'avons rien de mieux à faire que de le surprendre. L'essentiel est qu'il vous voie, n'importe si ce sera pour vous rendre justice ou non. Nous partîmes de bonne heure dans le carrosse de Madame Beaumont. Mylord nous y conduisit et me quitta en m'exhortant dans les termes les plus affectueux à prendre courage. Mon trouble ne fit qu'augmenter pendant la route. Mais comment vous exprimerai-je tout ce que je souffris au moment où la voiture s'arrêta? Ce seul instant fut le plus terrible que le reste de l'entrevue. Je crois qu'on m'a porté dans la maison, du moins je n'ai jamais pu me rappeler comment j'y suis entré. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous a introduit dans une salle basse. J'eus la faiblesse de demander à Madame Selwyn la permission de me retirer. Je l'assurai que j'étais absolument hors d'état de supporter pour le moment cette entrevue redoutable. « Non, » me répondit-elle, « vous devez rester avec moi. Un nouveau délai ne servirait qu'à augmenter vos craintes, et le choc que vous avez soutenu est trop rude pour que je puisse consentir à vous y exposer une seconde fois. » Puis elle se fit annoncer. On va nous rapporter que Sir Belmont avait été obligé de sortir pour des affaires indispensables, mais qu'il serait incessamment de retour. Je me sentais fort mal, et Mme Selwyn craignait un évanouissement. Elle eut la précaution d'ouvrir une chambre voisine et me conseilla d'y demeurer jusqu'à ce que je fusse un peu remise, qu'en attendant elle préparerait tout pour ma réception. Ce délai me fut agréable et j'acceptai avec joie la proposition de Mme Selwyn. Elle n'eut pas plutôt fermé la porte sur moi que j'entendis du bruit sur l'escalier. Des ordres donnés aux domestiques m'annoncèrent l'arrivée de Sir Belmont. C'était pour la première fois que la voix d'un père frappait mes oreilles. J'en fus ému plus que je ne pourrais vous le dire. Je puis vous rendre, monsieur, fidèlement son entretien avec Madame Selwyn. Sir Belmont débuta par quelques excuses. Je suis d'autant plus fâché, lui dit-il, de vous avoir fait attendre qu'un engagement m'appelle ailleurs. Si cependant vous aviez des ordres à me donner, je serais charmé de vous revoir dans une autre occasion. Je suis venu, monsieur, dans l'intention de vous présenter votre fille. Je vous remercie, madame, de cette peine, mais dans ce moment même, j'ai eu la satisfaction de déjeuner avec elle. Votre très humble, madame. Quoi donc, monsieur, vous refusez de la voir? Je vous suis infiniment redevable du désir que vous avez d'augmenter ma famille. Mais vous m'excuserez aussi si je ne profite pas de vos bons offices. Je suis déjà pourvu d'une fille. Elle a des droits à ma tendresse et à mon bien. Il n'y a pas 3 jours que j'ai eu le plaisir de faire la découverte d'un fils. Et qui sait à la longue combien d'enfants on se propose de me mettre encore sur les bras. Mais à dire vrai, je compte m'en tenir au cercle actuel de ma famille. Il me suffit très fort. Eussiez-vous des enfants par centaines? Celui dont Lady Belmont est la mère mérite une distinction particulière. Et loin de fuir sa vue, vous devriez remercier le ciel de retrouver encore l'occasion de réparer en quelque façon vos torts. C'est la moindre justice que vous pouvez rendre à la mémoire d'une épouse outragée que d'avouer sa fille. C'est à regret, madame, que j'entre en discussion sur cette matière, mais j'en parlerai puisque vous m'y forcez. Sachez donc qu'à l'heure qu'il est, je suis à l'abri de tout reproche. J'ai reconnu ma faute, je l'ai réparée. En un mot, j'ai fait tout ce que j'ai dû pour venger la mémoire d'une épouse infortunée. J'ai pris soin de l'éducation de sa fille. Je l'ai adoptée pour mon héritière légitime. Si vous pouvez, madame, m'indiquer des moyens plus efficaces pour m'acquitter de ma dette et pour justifier la réputation de feu Lady Belmont, faites-moi la grâce de m'en instruire, et je les mettrai volontiers en usage, quelque choquant qu'il puisse être d'ailleurs pour mon caractère. Tout ce récit est fort beau, mon apparence, mais j'avoue que je n'y comprends rien et qu'il surpasse ma conception en tout cas. Je ne vois pas ce qui peut vous empêcher de consentir à voir cette jeune demoiselle. Je ne m'y oppose pas non plus. Paraissez donc, ma chère, s'écria-t-elle en ouvrant la porte. Venez et montrez-vous aux yeux de votre père. » À ces mots, elle me retira toute tremblante de la chambre où j'étais restée cachée. Je voulus lui faire résistance, mais sœur Belmont fut le premier à s'avancer vers moi, et je me trouvai en sa présence sans presque le savoir. Quel moment pour Evelina! Je poussai un cri involontaire, et en couvrant mon visage des deux mains, je tombai à terre sans connaissance. Mon père m'avait regardé attentivement et il s'écria d'une voix à peine intelligible « Grand Dieu, ma Caroline serait-elle encore en vie ?» Madame Selwyn lui répondit « Mais je n'ai pas compris ce qu'elle disait. » Sœur Belmont m'adressa la parole après un moment de silence. « Relève-toi et ne crains pas ma vue. Lève la tête, ô toi, l'image vivante de mon infortunée Caroline. » Affecté au-delà de toute expression, je me soulevai et j'embrassai ses genoux. « Oui, oui, » s'écria-t-il après m'avoir fixé d'un œil sévère, « je vois que tu es sa fille. Elle vit, elle respire en toi, je la vois devant moi. Oh, que n'est-elle réellement encore en vie ?» Ensuite il me repoussa avec un regard égaré et il ajouta « Retire-toi, retire-toi, ôtez-la, madame, de devant mes yeux, je ne saurais soutenir sa vue. » Et en même temps, il s'arracha d'entre mes bras et se précipita hors de la chambre. Effrayée, tremblante, je n'eus pas le courage de l'arrêter, mais Madame Selwyn le suivit et le retint par le bras. « Laissez-moi, lui dit-il, et prenez soin de ce pauvre enfant. Dites-lui que je ne suis point un barbare. Dites-lui que dans ce moment je mourrais de mille morts pour elle, mais ma raison s'égare. Je ne saurais la voir davantage. » Il remonta l'escalier dans une espèce de frénésie. N'avais-je pas raison, monsieur, de redouter cette terrible entrevue? Ne devais-je pas prévoir qu'elle serait également pénible et douloureuse pour mon père et pour moi? Madame Selwyn voulut retourner d'abord à Clifton, mais je la priai d'attendre un moment, puisqu'il serait possible que mon père, revenu de sa première émotion, m'admît encore en sa présence. Je n'eus point cette consolation. Sœur Belmont nous envoya un domestique pour s'informer comment je me trouvais. Il fit dire aussi à Madame Selwyn qu'il se sentait fort incommodé, mais qu'il espérait avoir l'honneur de la revoir le lendemain. On convint que ce serait à 10 heures, après quoi nous remontâmes en voiture. Je quittai la maison avec un cœur oppressé, ses paroles affligeantes, je ne saurais la voir davantage, restèrent gravées profondément dans mon esprit. La vue de Mylord Orville, qui va nous prendre à la portière, dissipa un peu ma tristesse. Cependant, je n'eus pas assez de force pour l'instruire de ce qui s'était passé. Je priai Madame Selwyn de se charger de cette tâche et je me retirai dans ma chambre. J'y eus un entretien avec la bonne Madame Clinton sur la situation actuelle de mes affaires et il lui vint une idée qui semblait expliquer tout d'un coup le cruel abandon auquel j'étais condamné. Elle me dit que la femme qui a soigné ma mère dans sa dernière maladie m'a servi de nourrice dans les 4 premiers mois de ma vie, qu'ayant été congédiée ensuite, elle quitta Berry Hill avec sa fille qui n'était mon aînée que de 6 mois. Madame Clinton se souvint que sa retraite subite parut extraordinaire à tout le voisinage, mais comme on n'entendit plus parler de cette femme, on l'oublia peu à peu. Madame Selwyn fut frappée de cette découverte. Elle convint avec Madame Clinton qu'il se pourrait aisément que mon père ait été trompé et que la nourrice ait substitué son propre enfant à ma place. Le nom que j'ai porté depuis, le secret qui a été gardé sur mes affaires de famille, la retraite dans laquelle j'ai vécu, toutes ces circonstances conspiraient à favoriser cette imposture, quelle cardie qu'elle ait été d'ailleurs. En un mot, ce soupçon ne fut pas plutôt conçu qu'il trouva pleine croyance. Madame Selwyn fut d'avis qu'il ne fallait point perdre de temps pour approfondir cette conjecture. Et d'abord, après le dîner, elle retourna chez sœur Belmont accompagnée de Madame Clinton. J'attendis dans ma chambre le résultat de cette nouvelle démarche. Voici, monsieur, ce que j'en ai appris. Madame Selwyn trouva mon père dans la plus grande agitation. Elle a commencé par le mettre au fait des motifs qui l'ont engagé à reprendre si tôt sa visite. Elle lui parlait ensuite de ses soupçons contre la femme qui a prétendu lui remettre la fille de feu Lady Belmont. À ces mots, il l'a interrompue avec vivacité. Il a dit que, revenu de sa première altération et frappé de mon extrême ressemblance avec sa défunte épouse, l'idée d'une supercherie s'était d'abord présentée à son esprit, qu'en conséquence il avait fait appeler cette femme et qu'il venait de l'examiner sévèrement, qu'elle avait pâli et paru excessivement embarrassée en protestant pourtant toujours qu'elle était innocente et que l'enfant qu'elle lui avait remis était effectivement celui de feu Lady Belmont. Mon père a ajouté que cet événement le jetait dans le plus grand accablement et que de tout temps il avait été surpris de trouver à sa fille si peu de ressemblance avec ses parents, mais que n'ayant jamais soupçonné la bonne foi de la nourrice, il ne s'était point arrêté à cette circonstance. Madame Selwyn demanda qu'on fît revenir cette femme. On l'interrogea avec autant de subtilité que de sévérité, sa confusion fut manifeste, et elle se coupa plusieurs fois dans ses réponses, mais elle n'en persista pas moins à soutenir qu'elle n'était coupable d'aucune fourberie. « La chose est facile à vérifier, » a dit alors Madame Selwyn. « Qu'on fasse monter Madame Clinton. » À ce nom, la pauvre malheureuse a changé de visage et cherché à se sauver. Mais on l'en a empêchée, et voyant que ses défaites devenaient inutiles, elle s'est jetée à genoux pour demander pardon et a tout avoué. « Vous vous remettez, sans doute, mon cher monsieur, la femme Green, ma première nourrice. C'est elle-même qui a tramé cette indigne menée. Le plan en fut formé d'après une conversation qu'elle a épiée, et dans laquelle ma mère vous recommanda l'éducation de son enfant, et vous pria surtout, dans le cas qu'elle accouchât d'une fille, de lui vouer un soin particulier, et de ne pas la perdre trop tôt de vue. Vous en donnâtes votre parole, et de plus, vous promîtes à ma mère de vous retirer avec votre élève à la campagne, si le père la redemandait avec instance. La Green pensa à tirer parti de cette découverte. Elle ne put résister à la tentation d'approprier à sa fille une fortune dont elle voyait qu'on faisait si peu de cas pour moi. Elle suivit cette idée, et ce qui lui avait paru d'abord un souhait passager, devint bientôt un projet auquel elle travailla sérieusement. Elle avait perdu son mari, et sa fille était actuellement l'unique objet de ses soins. Le séjour de mon père lui était connu, elle rassembla de quoi fournir aux frais du voyage, et après avoir répandu dans le voisinage qu'elle allait s'établir dans le Devonshire, elle partit pour l'exécution de son dessein. Madame Selwyn lui a demandé, entre autres, comment elle avait osé risquer une entreprise aussi hardie. Et elle a répondu ingénument qu'elle n'avait pas eu de mauvaises intentions, et qu'elle avait pensé que cette imposture ne faisait du tort à personne. Elle avait cru que ce serait dommage de laisser échapper la fortune destinée à l'héritière légitime sans qu'une autre en profitât. Son projet lui réussit à merveille, et en effet tout semble l'avoir favorisé. Mon père n'avait point de correspondance à Berry Hill. L'enfant fut envoyé bientôt après en France, où il a été élevé dans la retraite, tandis que de mon côté mon état est demeuré caché. Il n'y a qu'un heureux hasard qui ait pu découvrir cette intrigue compliquée. Je m'arrête ici un moment pour faire une observation qui m'a été de la plus grande consolation. Ce n'est donc ni par insensibilité ni par rigueur que j'ai été négligé par mon père. Je ne dois ce malheur qu'à une odieuse imposture qu'il n'a pu prévoir. Et dans le même instant où je me croyais condamné au plus profond oubli, il était dans l'idée que sa fille avait part à toutes ses bontés. Sir John Belmont convint que la lettre que Lady Howard lui écrivit il y a quelque temps l'embarrassa beaucoup. Il en fit d'abord lecture à la Green, et celle-ci avoua que c'est le plus rude choc qu'elle ait eu à soutenir dans cette affaire. Cependant, elle fut assez rusée et assez hardie pour avancer que Lady Howard devait avoir été trompée elle-même. Elle a eu la précaution de faire accroire à mon père, depuis le commencement de cette intrigue, qu'elle avait enlevé l'enfant à votre insu, monsieur. Ainsi, la nouvelle de l'apparition d'une seconde fille de Sir Belmont à Berry Hill devait naturellement lui inspirer des soupçons. Le mal est qu'ils aient été dirigés contre ceux qui ne les méritaient pas. De là aussi la réponse laconique qui a été adressée à Lady Howard. La Green a avoué encore que, depuis le moment où le voyage de la famille en Angleterre a été décidé, elle s'est crue perdue, qu'il ne lui était resté alors d'autres ressources que de pourvoir, ou plutôt à l'établissement de sa fille, que dans cette vue, elle avait favorisé les assiduités de M. McCartney, persuadée que ce parti, peu proportionné aux espérances de Miss Belmont, ne serait que trop avantageux à sa fille, après qu'on aurait dévoilé le mystère de sa naissance. J'ai voulu savoir si cette jeune personne est déjà instruite de la révolution dont elle est menacée. Madame Selwyn m'a dit que jusqu'ici, on avait encore gardé le secret sur cette découverte, que même on n'avait pas encore pris le moindre arrangement à son égard. Pauvre malheureuse, que son sort est dur. Je lui dois toute mon amitié, et je la traiterai toujours en sœur. Enfin, j'ai demandé à Madame Selwyn si je n'aurais point la satisfaction de voir mon père. Elle m'a pleinement rassuré. Seulement, m'a-t-elle dit, Sœur Belmont ne se sent pas encore assez fort pour soutenir votre vue. Mais toutes ces difficultés disparaîtront, et peut-être serait-elle levée déjà, si cette Green ne nous eût occupés toute la journée. Madame Selwyn a repris dès ce matin le fil de ses négociations. J'attends son retour avec impatience. Mais comme je ne doute pas que vous ne soyez impatient de recevoir de mes nouvelles, je ferai partir ma lettre telle qu'elle est. Son contenu ne manquera pas de vous paraître intéressant.